voudrais commencer cette prédication en vous relatant un récit que j'ai lu dans le livre de Ray Pritchard, Le pardon, chemin de la guérison. Dans son livre, Ray Pritchard nous parle de trois personnages. Le premier s'appelle Michio Fushida. Ah, alors, est-ce qu'il faut que je le mette là ? La roulette ? Roulette. Non. Comment ? L'autre écran. Il cherche la souris.
Est-ce que vous avez essayé de l'allumer ?
Comment ?
Je vous l'avais déjà allumé. Je pense que vous l'avez fait.
Ah, parce qu'il m'a dit de l'allumer.
Je l'avais déjà fait pour
vous. Ah bon, ok, merci. Bon, on a trouvé le problème, c'est bien. Il avait déjà allumé la souris. Alors que Christian m'avait dit, allume la souris. Alors moi, je l'ai éteinte. Merci. Donc, voilà, dans cette illustration, j'aimerais vous parler de trois personnes qui sont étroitement reliées avec la Deuxième Guerre mondiale. Le premier, c'est Michio Fushida. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de son histoire. Deux vagues d'avions ont décollé des trois porte-avions deux vagues d'avions ont décollé pour pouvoir bombarder Pearl Harbor durant la Deuxième Guerre mondiale. Et le premier avion de la première vague était piloté par Michio Fushida, dont vous voyez le nom à l'écran. Et c'est lui qui a crié le code convenu, Torah, Torah, Torah. Je ne sais pas si c'est une citation ou une référence à la Bible. J'ai aucune idée. Est-ce que ça veut dire autre chose en japonais ? J'ai aucune idée. Mais ce sont ces paroles qui ont lancé la première vague de bombardement de Pearl Harbor. Les premières bombes tombèrent sur la cible à 7h55. 2403 morts. Ça a été la plus grande défaite navale de l'histoire des États-Unis. Deuxième personnage dans cette illustration, c'est celui de Jake de Chazer. C'est un homme qui, quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor, a participé à un raid aérien décidé par les États-Unis sur Tokyo en plein jour. Il fallait quand même que les États-Unis fassent quelque chose d'assez marquant pour redonner un petit peu l'espoir aux Américains. La plupart des pilotes ont dû sauter en parachute au-dessus de territoires contrôlés par les Japonais, car ils étaient à court de carburant. Ils avaient assez de carburant pour se rendre à Tokyo, bombarder Tokyo, mais pas assez de carburant pour entrer donc à la maison. Et Jake de Chazer a passé 40 mois dans un camp de prisonniers dans des conditions atroces. 34 en isolement total. Trois de ses compagnons furent exécutés. Un mourut lentement de faim. Ce n'est pas étonnant que Jake ait développé dans son cœur une haine féroce envers les Japonais. Au camp, les prisonniers ont reçu à un moment donné une Bible en anglais. Alors évidemment, les gradés ont eu accès à cette Bible en premier. Et quand ce fut le tour de Jake, eh bien, Jake a lu toute la Bible et le 8 juin 44, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et tout en étant dans ce camp, il a commencé à développer de l'amour pour ses geôliers. Et par la suite, après la libération, il a fait des études en théologie, puis il est devenu missionnaire au Japon. Revenons à Michio Fushida, le premier cité. En 1950, lors d'un voyage pour se rendre à Tokyo, quelqu'un lui remit un petit tract, un petit pamphlet, intitulé « J'étais prisonnier du Japon ». Le témoignage de Jake de Chazer a touché Michio Fushida, qui lut la Bible et se convertit par la suite le 12 avril 1950. Troisième personnage dans cette illustration. Le troisième personnage s'appelle Joe Morgan. Joe Morgan, en 1941, il avait 19 ans. Il avait le désir de devenir prédicateur. Il s'enrôla dans l'armée pour voir du pays. En tout cas, c'est pas ça que j'aurais fait, moi, pour voir du pays. Lors de Pearl Harbor, il était donc dans cet endroit qui a été bombardé. Et il a pris son fusil en voyant passer les avions japonais au-dessus de sa tête. Il a pris son fusil et tira sur les avions japonais. Évidemment, c'était pas vraiment, il n'était pas très très armé pour faire face à cette première vague d'avions. Il devint pasteur par la suite, après la guerre, mais avec une haine féroce dans son cœur contre les Japonais. En 1956, un orateur vint dans la région, et c'était Michio Fushida, qui s'était évidemment converti. Et après la conférence, Joe Morgan parla avec Michio et lui dit qu'il se trouvait au sol lors de l'attaque de Pearl Harbor. Et Michio lui dit « Je suis désolé » et il lui tendit la main. À cet instant même, la haine que Joe Morgan avait dans son cœur a disparu. Cette haine qu'il avait portée en lui pendant toutes ces années. Ce que je voudrais regarder avec vous, donc, c'est regarder un texte dans Matthieu qui nous parle du pardon. Et je suis tout à fait conscient de la complexité du sujet. C'est un sujet qui touche nos émotions. C'est un sujet au sein duquel nous avons parfois bien des questions. Par exemple, nous pourrions nous questionner sur le pardon et la repentance. Et aussi le pardon vis-à-vis des excuses. Est-ce que je dois pardonner quelqu'un qui dit se repentir. Ça va mal. C'est ma deuxième prédication aujourd'hui, alors vous allez peut-être m'excuser. Donc peut-être que vous vous dites, est-ce que je dois pardonner quelqu'un dont la repentance ne semble pas correspondre à ce que moi je comprends de la repentance? Est-ce que la repentance est vraiment sincère? Est-ce que ses excuses sont vraiment sincères? Donc, quand quelqu'un présente des excuses que je mets en doute, est-ce que je dois accorder le pardon? En fait, quand on parle du sujet du pardon, il faut aussi prendre conscience que le pardon a plusieurs dimensions. Il y a, comme le dit Tim Keller dans son livre, la dimension verticale. C'est-à-dire, est-ce que dans mon cœur, j'ai pardonné? Est-ce que j'ai pardonné devant Dieu? Après, il y a la dimension horizontale. Tu sais. Est-ce que j'ai pardonné à mes frères et sœurs, tu sais. Donc ça complique les affaires. Tu sais. Quand la Bible nous dit qu'il faut pardonner, oui d'accord, je comprends qu'il faut pardonner, mais j'ai des questions vis-à-vis du pardon et de l'application du pardon. Par exemple, je peux avoir des questions en rapport avec la réconciliation. Tu sais, est-ce que le pardon, c'est la même chose que la réconciliation? J'ai pardonné, mais en fait, on n'est pas réconcilié. En même temps, la Bible me dit qu'il faut que je pardonne comme Dieu a pardonné, mais quand Dieu me pardonne, ben, il y a réconciliation avec Dieu. Là, tu sais. Alors, comment je réponds à ces questions? Nous avons aussi, lorsque nous pensons au sujet du pardon, toute la question du pardon et de la justice. Est-ce que je pardonne? Mais où est l'application de la justice? Parce qu'en fait, quand Dieu nous pardonne en Jésus-Christ, la justice de Dieu se manifeste. C'est. Dieu nous pardonne, mais il nous rend juste en Jésus-Christ. Donc la justice n'est pas séparée du pardon. En fait, Dieu nous considère comme juste. C'est. Et là, moi, quand je pardonne, ben, il y a toute cette question d'injustice qui m'a été faite. C'est que, bon, tout ça, ça fait en sorte que le pardon devient compliqué. C'est. Ce que je voudrais ce matin, c'est aborder l'aspect fondamental du pardon. Ne pas toucher à ces sujets, même si vous auriez voulu que je réponde à certaines questions que vous avez. Mais me concentrer sur l'aspect fondamental du pardon, parce que si cet aspect fondamental n'est pas acquis dans notre vie, ben nous ne serons pas motivés à pardonner. Mais si cet élément fondamental est acquis dans notre vie, même si nous avons des questions, ben au moins nous aurons cette conviction qu'il me faut pardonner. Donc je voudrais commencer par la base. Avant de lire le texte biblique, je voudrais vous parler de deux livres. Ben deux, en fait, j'ai deux diapositives, mais j'ai quatre livres, et puis même un cinquième que, dont je n'ai pas la photo. Mais le premier, c'est le livre d'Amar Djabela sur les paraboles, qui est certainement, qui est probablement le livre le plus complet sur le sujet, en français en tout cas. Donc évidemment, j'ai lu la parabole qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, donc j'ai lu son commentaire, très très intéressant. Ensuite, je vous ai déjà cité le livre de Ray Pritchard en parlant de l'illustration que je vous ai présentée, c'est-à-dire celui dont le titre est le suivant, « Le pardon, chemin de la guérison ». J'ai aussi lu un livre qui m'a fait beaucoup de bien, qui s'appelle « Le pardon et l'oubli ». C'est encore une question, là. Ben, je pardonne, mais est-ce que je dois oublier, tu sais ? C'est encore des questions qui peuvent nous ralentir dans l'exercice du pardon. L'autre livre qui est à l'écran, c'est celui de Tim Keller sur le pardon, pourquoi pardonner et comment y parvenir. En fait, je l'ai lu à Noël dernier, puis je dois dire que d'un point de vue théologique, c'est peut-être le livre le plus solide, qui comprend aussi des applications pratiques. Donc c'est peut-être pas le plus facile à lire, mais je pense que c'est celui qui est le plus solide. Dans tout ce que j'ai lu. J'ai une vingtaine de livres sur le pardon chez moi. Et puis, il y en a beaucoup qui présentent des positions populaires sur le pardon, qui ne correspondent pas du tout à l'enseignement biblique. Par exemple, certains livres vont vous dire « Il faut que tu pardonnes parce que ça te fait du bien. » La Bible ne nous dit pas qu'il faut pardonner parce que ça nous fait du bien. La Bible nous dit « Tu pardonnes parce que tu veux libérer celui qui a contracté une dette envers toi. » Ça, c'est la raison. Bien sûr, ça peut te faire du bien. C'est sûr, là, quand tu pardonnes, c'est comme un poids qui tombe, tu sais. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle nous sommes appelés à pardonner. Alors, le dernier livre que je voudrais vous mentionner concernant le pardon, c'est celui de Gary Chapman, je pense, je vous en ai parlé la dernière fois que je suis venu. « Les langages de la réconciliation, apprendre à présenter ses excuses et à décoder celles des autres ». Parfois, on a du mal à pardonner. Le problème réside dans les excuses qui ont été faites. Nous avons selon Gary Chapman, cinq langages pour exprimer des excuses. Et si moi, j'utilise un langage, puis vous utilisez un autre langage, j'aurai un peu de difficulté à accepter tes excuses. T'sais. Vous connaissez Gary Chapman, il a écrit les cinq langages de l'amour. Là, donc, avant de vous marier, là, lisez ça, tu sais. Puis si vous êtes marié, puis vous n'avez pas compris qu'il y a cinq langages, puis que vous vous disputez de temps en temps, ben lisez-le aussi, tu sais, ça vaut la peine de comprendre ce genre de choses. Alors, Matthieu 18, c'est le chapitre, un chapitre qui nous parle des relations dans le royaume de Dieu. Alors, je voudrais dire quelques mots sur l'arrière-plan de ce passage. Notamment, j'aimerais mentionner le verset premier. Les disciples s'approchent de Jésus parce qu'ils ont une question. La question, c'est pas « Seigneur, c'est quoi le rapport entre le pardon et la réconciliation ?» C'est pas ça. C'est qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Ça les intéresse, ça. Ils veulent être le plus grand dans le royaume des cieux. Et Jésus va répondre en leur disant « Vous devez devenir comme un petit enfant. » Alors, je ne vais pas détailler tout l'arrière-plan, même si vous allez voir plusieurs notes à l'écran. Mais Jésus va dire qu'il faut être comme un petit enfant pour rentrer dans le royaume des cieux. Avoir la confiance, l'humilité d'un petit enfant, c'est certainement l'humilité et la confiance des éléments qui nous permettent d'entrer dans le royaume des cieux. Je dois être assez humble pour reconnaître mon péché et avoir assez de confiance dans le salut de Jésus-Christ pour rentrer dans le royaume des cieux. Mais Jésus dit aussi au verset 4 que pour être le plus grand dans le royaume des cieux, il faut être aussi comme un petit enfant. Non, tu sais, ça vient secouer notre orgueil, tu sais, d'adulte ou de gars macho. Est-ce que ça existe des femmes macho? Je ne sais pas. Mais je pense que l'orgueil, ça touche à la fois les femmes et les gars, n'est-ce pas? Dans notre cœur. Donc, Jésus nous encourage aussi dans ces quelques versets, dans le contexte des relations dans le royaume de Dieu, à recevoir les petits-enfants. Tu sais, souvent, on a tendance à mépriser ceux qui sont plus petits que nous. Tu sais. Recevez les petits-enfants. Et en cela, au verset 5, il déplace la perspective. Il dit, celui qui accueille en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, m'accueille moi-même. Waouh ! C'est pas comme ça que nous, on aurait compris les choses. C'est, on accueille des gens importants, des gens qui sont dignes de s'asseoir sur les places d'honneur, là, tu sais, mais les petits, là, ils sont à l'arrière, on s'en occupe plus ou moins. T'sais. Et Jésus, donc, va dire au verset 6 de ce chapitre 18, « Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond d'un lac. » C'est-à-dire, il vaudrait mieux qu'on te noie. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de parler de quelqu'un qui va scandaliser un petit enfant. Et dans la parabole sur le pardon, il y a des gens qui vont être scandalisés. On va y revenir. Et Jésus nous dit, bien si ta main ou ton pied est une occasion de chute, eh bien coupe-les. Il vaut mieux rentrer sans ta main, sans ton pied dans le royaume de Dieu que d'aller dans la GNC. Donc, nous avons donc un avertissement dans ces quelques passages. Mais si nous continuons, et nous nous rappelons que le sujet du texte, c'est les relations dans le royaume de Dieu. Mais si nous continuons dans Matthieu, Matthieu va parler de l'amour du Père pour ses petits, dans les versets 10 à 14. Il va nous dire que le Père aime ses petits, il vient à leur aide. Il va nous dire que la brebis qui semble pas si importante, la centième qui est perdue, eh bien, le Seigneur s'en occupe, et il a beaucoup de joie quand on retrouve cette centième. Vous savez, on pourrait se dire, bon, la centième est perdue, ben, écoute, ben, il faut que je m'occupe de mes 99 autres, tu sais. Mais pour Jésus, les plus petits sont importants. Et Jésus va, dans les versets 15 à 20, versets 15 à 20, va nous parler de comment gagner quelqu'un qui a péché contre nous. Le pécheur, là, il est important. Tu sais. Il ne suffit pas d'aller le reprendre de la hauteur de ton savoir ou de ton expérience chrétienne. Mais quand tu vas parler à quelqu'un, il faut que tu sois animé par ce désir de gagner le frère ou la sœur. Tu sais. Alors c'est tout un contexte de relations, ça. Des relations dans le cadre du royaume de Dieu. Et là, on arrive au verset 21, à notre texte, où Pierre nous dit... Où le texte nous dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda. Vous voyez le petit mot alors? Parce que Pierre, il écoute Jésus parler des relations dans le royaume de Dieu. Puis Jésus, Pierre comprend très bien que quand on parle de relations, il y a un sujet qui est important. C'est celui du pardon. Alors voilà comment le texte nous est présenté. Verset 21. Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Et Pierre est toujours plus intelligent que les autres. Ou en tout cas, il a peut-être plus d'insight ou de compréhension que les autres. Puis il dit, est-ce que je devrais aller jusqu'à 7 fois? T'sais? Non, lui dit Jésus. Ben, j'imagine la réaction de Pierre. Voyons, Seigneur, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présentant un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Là, on va faire des commentaires tout à l'heure qui tiennent compte de l'inflation. Vous allez voir. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens, pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia. « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Imaginez-vous la scène, fermez les yeux, puis imaginez-vous la scène. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien savoir. De plus, il alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Vous voyez, au début du chapitre, il ne faut pas choquer les petits-enfants. Là, il y a des gens qui sont choqués de voir l'attitude de ce serviteur-là. Alors, celui-ci, le maître, fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Oups, j'ai oublié quelque chose. Qui ne pardonne pas de tout son cœur ou du fond du cœur, c'est-à-dire réellement, à 110%. À son frère. Alors vous voyez, la parabole, elle est structurée en trois scènes, mais elle est encadrée quand même par deux exhortations. Regardez les versets 21 et 22. Le texte nous dit ceci. Combien de fois je devrais pardonner jusqu'à 7 fois? Verset 22, non, 70 fois 7 fois. Ça, c'est l'exhortation de Jésus. Tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. La deuxième exhortation, elle arrive à la fin du chapitre, verset 35. Voilà comment on vous traitera, ou comment votre Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur. C'est une exhortation, ça, à pardonner du fond du cœur. Donc, deux exhortations. Vous voyez combien c'est important, là, ce qui encadre la parabole. Ensuite, évidemment, il y a trois scènes dans les versets 23 à 34, la première scène se situe dans le palais, alors que le roi demande des comptes à son serviteur, et il lui remet la dette, première scène. Deuxième scène, c'est à la sortie du palais. Le gars qui est dehors, qui rencontre quelqu'un qui lui doit presque rien, et qui l'attrape par le cou et qui veut l'étrangler en lui disant, écoute, rends-moi ce que tu dois, et qui le fait jeter en prison. Troisième scène, c'est quand le roi, le maître, apprend ce qui s'est passé, et qu'il fait venir devant lui cet homme à qui il a remis une dette énorme, et il prononce une sentence. Tu aurais dû remettre la dette à ton copain, la petite dette. Tu ne l'as pas fait, maintenant tu vas aller en prison. Donc trois scènes, d'accord? C'est intéressant, hein? C'est assez graphique, hein, les paraboles. Tu sais, on pourrait même se fermer les yeux puis imaginer un petit peu chacune de ces scènes. La question de Pierre, au verset... il faut que j'avance en même temps que je parle. La question de Pierre au verset 21 reflète un certain réalisme. Pierre comprend ce qui se passe. Il est question de relations dans le royaume des cieux, il est question de ses petits, il est question de quelqu'un qui a péché, comment aller le gagner. T'sais. Pierre comprend là, que le pardon a un rôle à jouer. Là, et c'est pour ça qu'il pose cette question. Et cette question est tout à fait donc légitime, puisque les rabbins eux-mêmes, quand ils enseignaient sur le pardon, recommandaient à ne pas pardonner plus de trois fois. Trois fois. Peut-être qu'ils connaissaient le dicton « jamais deux sans trois ». Enfin, j'en doute, là, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais en tout cas, trois fois. Et ils avaient certainement une base biblique. Une certaine base biblique. Dans Amos, au premier chapitre, il est question des nations qui ont franchi une ligne rouge. Là. Et parce qu'ils ont franchi la ligne rouge, ils ne seront plus pardonnés. Donc la question de Pierre est quand même pertinente. Est-ce qu'il n'y a pas une limite au pardon? Mais Pierre veut aussi démontrer qu'il est peut-être un petit peu meilleur que les rabbins, je ne sais pas, j'imagine, la Bible ne dit pas. Alors lui, il va dire, non, les rabbins disent trois fois, moi je vais mettre de l'inflation là-dedans. Ok, on va dire sept fois, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est une proposition, en fait, généreuse dans le contexte religieux de l'époque, la proposition de Pierre. Mais la réponse du Seigneur est assez surprenante. Parce que la réponse du Seigneur va dire, tu dois pardonner 77 fois sept fois. Et ça, c'est un écho inversé des paroles de l'Émec au chapitre 4 de la Genèse, où l'Émec dit, si quelqu'un me fait du mal, je vais me venger 77 fois cette fois. En quelque sorte, qu'est-ce que les mecs et Jésus sont en train de dire? C'est que le chiffre de 77 fois cette fois, c'est un chiffre symbolique qui veut dire tu dois pardonner tout le temps. Et pour les mecs, ça voulait dire je me vengerai tout le temps. Alors ne me fais rien de mal, là, tu sais, parce que ma vengeance va reposer sur toi. Tu sais, et constamment même. Donc, le texte, la réponse de Jésus a de quoi surprendre son auditoire. Tu dois vivre constamment le pardon. C'est ça que Jésus est en train de dire. En fait, dans Luc au chapitre 17, versets 3 à 4, nous avons un petit peu cette même idée lorsque Luc nous dit que même si quelqu'un demanderait pardon 7 fois dans la journée, ben tu devrais lui pardonner 7 fois. Ça ne veut pas dire que Luc est moins généreux que Jésus. Ça veut dire que Luc est en train de dire aussi, tu dois constamment pardonner si quelqu'un vient te demander pardon. Donc voilà un petit peu le contexte de cette parabole. Et on va répondre à trois éléments en rapport avec le pardon pour traiter de ce thème, le pardon, un besoin incontournable. Pourquoi le pardon est-il un besoin incontournable? Il est incontournable pour que Dieu nous reçoive. Très important ça. Le pardon est incontournable pour que Dieu nous reçoive. Mais le pardon est aussi incontournable pour que je reçoive mon frère. Recevoir mon frère, recevoir ma sœur exige le pardon, la mise en pratique du pardon. Ça, c'est incontournable. Et la dernière raison pour laquelle le pardon est incontournable, c'est que le pardon exprime notre appartenance au royaume de Dieu. Trois bonnes raisons d'être convaincu de la nécessité de pardonner, et ceci, même si nous pouvons avoir des questions sur le pardon, la réconciliation, le pardon, la repentance, etc., comme nous avons mentionné au début. Le pardon est un besoin incontournable pour que Dieu nous reçoive. Alors, dans ce passage, il est question d'un roi au verset 23 à 27. Il est question d'un roi. Et Jésus va donc commencer son enseignement en disant « Le royaume des cieux est semblable à... » Donc, on s'y attend un peu à ce qu'on puisse faire des parallèles entre nous ceux qui devaient des dettes, là. On peut s'attendre aussi à faire un parallèle entre Dieu puis le roi, là, tu sais. Et en fait, la parabole va donner des indices pour nous orienter vers le Seigneur à plusieurs endroits dans la parabole. En fait, au verset 25, on n'appelle plus le roi, roi. On l'appelle Kurios. On l'appelle maître. Et Kurios, c'est l'expression qui désigne le Seigneur hein, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Donc, il y a des indices qui nous poussent vers Dieu et ce roi demande des comptes. Bon, on sait que le Seigneur demande des comptes aussi. Dieu va nous demander des comptes, tu sais. Donc, on a quelques petits indices. Alors, la parabole nous présente pas simplement le roi, mais la parabole nous présente aussi le serviteur, au verset 24. Ce serviteur était probablement, comme certains le pensent, un gouverneur. À moins d'être gouverneur, tu ne pouvais pas avoir accès à autant d'argent. Mais même si tu étais gouverneur, comme nous allons le voir, la dette est pratiquement impossible, même de la part d'un gouverneur. Donc Jésus a volontairement augmenté les chiffres de la dette pour des raisons didactiques. Alors, cette dette se montait à 10 000 talents. Ça, c'est la traduction de Louis II. Et dans la traduction du Semeur, qui préfère utiliser le principe de l'équivalence dans la traduction, plutôt que d'une traduction littérale, comme Louis II. La Bible du Semeur nous dit que la dette s'élève à 60 millions de pièces d'argent. Ça, c'est déjà pas mal. T'sais. Pour ma petite bourse à moi, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas pour la vôtre, là. Mais un talent, à quoi ça correspondait? Un talent, là, on va faire un petit peu de mathématiques, hein, je ne sais pas si vous aimez ça, là. Mais un talent, ça correspondait à 6 000 deniers. C'est bon ça, un talent, 6 000 deniers. Mais attends, qu'est-ce que c'était un denier? Ben, un denier, c'était la paye journalière d'un soldat. Donc un talent, ça correspondait à 6 000 journées de paye pour un soldat. C'est énorme ça. Je ne sais pas si un soldat vive assez longtemps pour recevoir 6 000 deniers. Tu sais. 6 000 deniers, ça correspondait aussi à 17 ans de salaire d'un soldat. 10 000 talents. Donc c'est 17 ans de salaire pour 10 000 soldats. Vous me suivez là? Peut-être à moitié là. Alors j'ai fait un petit calcul. Un salaire annuel, c'est à peu près 50 000 dollars aujourd'hui. Bon, j'ai calculé 50 000. Peut-être la moyenne, c'est 60, je ne sais plus là, en tout cas. J'ai multiplié par 17, j'ai multiplié par 10 000, il y avait 10 000 talents. Ça va à quoi ça correspond? À 8 milliards 500 millions. Donc là, la Bible du semeur est un peu en retard. Quand elle dit quelques millions, là, tu sais, 60 millions de pièces d'argent. Non, non, maintenant, c'est plus 10 millions, là, c'est des milliards. Hein. Donc la dette était énorme. Et déjà, en soi, c'est une... Là, j'aurais dû vous montrer ça petit à petit, ça vous aurait aidé. Là. Enfin, c'est le dernier chiffre qu'il faut regarder, là. 8 milliards 500 millions. Là, tu sais. Et encore, on est peut-être conservateur, comme je vous l'ai dit, si on compte un salaire moyen de 50 000 dollars. Donc, c'est une impossibilité en termes humains que quelqu'un s'endette autant que ça. Mais si Jésus, en parlant de la parabole, veut aussi attirer notre attention sur la dette que nous, on a contractée envers Dieu à cause de notre péché, ça veut dire que notre dette est beaucoup plus importante qu'on pourrait penser. Ça veut peut-être dire que lorsque je pense à la dette que j'ai contractée avec Dieu, peut-être que j'ai tendance à minimiser l'ampleur de la dette que j'ai contractée envers Dieu. Alors, pour que Dieu nous reçoive, eh bien, il faut se rappeler aussi le contexte légal, versets 24 et 25. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un serviteur qui lui devait donc ses 10 000 talents. C'était le droit du roi de calculer, de faire le point financier et de demander des comptes à ses serviteurs. Et la démarche qu'il entreprend est tout à fait légal. Même au verset 25, lorsqu'on dit « Ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, afin que tous ses biens, pour rembourser sa dette. » Donc c'était parfaitement légal. Probablement, le roi était un roi païen, parce que dans la loi juive, si tu t'endettais, tu ne pouvais pas vendre ta femme pour rembourser la dette. Donc probablement, Jésus faisait allusion à un roi païen dans sa parabole. Mais c'était légal. C'était tout à fait légal. Et la suite logique de ces actes légaux que le roi pose, c'est qu'il va faire emprisonner ce serviteur. Hein. Et le traitement va être impitoyable. Donc, il fait mettre en prison, et puis il va rester en prison longtemps, parce que c'est pas en prison que tu fais le plus d'argent pour rembourser ta dette. Tu sais. Donc, probablement que toute la vie de ce serviteur allait être bouleversée et qu'il allait la finir en prison. Tu sais. Alors, le serviteur, donc, va paniquer. Le serviteur va paniquer, verset 26. En fait, c'est intéressant parce qu'il se prosterne devant le roi. Il y a une allusion peut-être à Dieu, parce que le verbe prosterner veut dire aussi... fait peut-être allusion aussi à l'adoration, là, tu sais. Mais la deuxième allusion à Dieu, c'est pas seulement qu'il se prosterne. Son copain, là, qui devait un petit montant, lui, se jette à genoux. Lui, il se prosterne, comprenez-vous, là. Donc, il y a peut-être une allusion à Dieu. Puis, il y a peut-être une deuxième allusion à Dieu lorsqu'il est question de la miséricorde de Dieu. Le terme qui est employé dans les paraboles, en parlant de miséricorde, fait aussi référence à Dieu dans les textes bibliques. La panique du serviteur le pousse à être complètement irréaliste. Je te rembourserai tout. Quand on fait un parallèle avec la situation de l'être humain, hein, c'est incroyable. Hein. Le montant de dette qu'on doit à Dieu, puis parfois les êtres humains disent, ben moi je vais m'arranger avec lui en haut. Vous avez déjà entendu ça? Des gens qui disent, ben nous quand on se présentera devant Dieu, là, on va s'arranger avec lui en haut, tu sais. Comment ça? Tu penses que tu peux vraiment t'arranger avec lui? Tu penses vraiment là que tu vas pouvoir rembourser ta dette? C'était évidemment irréaliste. Donc, le verset 27 nous présente une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'exercice de la compassion du roi. Le roi absorbe le coût de la dette dans sa totalité et sans sanctionner la méchanceté. Le roi aurait pu se dire, j'ai perdu l'argent, je vais marquer ça dans la colonne des pertes. C'est... Mais le serviteur, il va y goûter pareil. Je peux plus lui redemander d'argent. Là. Je peux plus lui redemander qu'il me rembourse. Mais le serviteur va tout de même être sanctionné. Mais non, dans sa miséricorde, le roi absorbe la dette et en même temps, il ne sanctionne pas ma méchanceté ou la méchanceté du serviteur. Puis c'est exactement ce que le Christ a fait à la croix, hein, ce que Dieu a fait. C'est que Dieu absorbe le coût de la dette. Il y a quelqu'un d'autre qui va payer, c'est Jésus, pour que nous ne soyons non seulement pardonnés, non seulement que la dette soit effacée, mais que nous ne soyons pas sanctionnés pour notre méchanceté. Le pardon, c'est un besoin incontournable, non seulement dans notre relation avec Dieu, mais le pardon est un besoin incontournable pour recevoir notre frère. Alors regardons les parallèles dans ces deux scènes, en quelque sorte. Là. Alors j'ai fait un petit tableau, vous avez donc la colonne du milieu, c'est le serviteur du roi, la colonne de droite, c'est le compagnon de service, et la colonne de gauche, eh bien certains éléments que nous pouvons retirer de la parabole. Premièrement, la somme due. Serviteur du roi, il doit 10 000 talents. 10 000 talents, hein, c'est énorme. L'autre doit 100 jours de travail, 3 mois de salaire. C'est sûr que 3 mois de salaire, c'est déjà une dette. Là. Tu sais, je veux dire, mais aujourd'hui, il y a bien des gens qui doivent des dettes qui sont un petit peu équivalentes à 2-3 mois de salaire. Tu sais. La réaction du créancier. Le créancier, c'est-à-dire celui à qui on doit l'argent, dit au serviteur du roi, tu vas être vendu avec ta femme et tes enfants. Et le compagnon de service, lui, il saisit son collègue à la gorge, puis il dit, maintenant, là, rends-moi ce que tu me dois. Alors la réaction des deux créanciers est différente. Hein? Mais tous les deux ont le droit d'intervenir. C'est légal. Vendre la femme et puis le serviteur du roi, de le vendre, lui et ses enfants, c'était légal. Et probablement que ce serviteur du roi, il avait certains droits légaux pour aller voir son compagnon de service et lui dire, tu me dois 3 mois de salaire, la paye-moi. Tu sais. Maintenant, si on passe à un autre élément, c'est la requête des débiteurs, c'est-à-dire des gens qui avaient contracté la dette. Le serviteur du roi, il dit, aie patience, et je te rembourserai tout. Et le compagnon de service, il lui dit exactement la même chose, même prière, même supplication, tu sais, exactement. Mais vous connaissez la réponse de l'un et de l'autre. Le serviteur du roi, reçoit la compassion de ce roi, de ce maître, qui lui remet la dette sans le punir pour sa méchanceté. Et vous connaissez la réponse du serviteur du roi face à son compagnon de service. Il refuse de patienter et le fait jeter en prison. Vous voyez, ce tableau-là, ça nous aide à comprendre la situation dans laquelle je me trouve quand je refuse de pardonner. Moi, quand je refuse de pardonner, je suis dans la colonne de droite. Mais sans oublier que j'étais dans la colonne du milieu, puisque j'étais pardonné par le Seigneur, tu sais. Mais maintenant, quand je refuse de pardonner, eh bien, je me trouve ici dans la colonne de droite, celle du compagnon de service. Pour recevoir notre frère, hein, le pardon, c'est incontournable. Je ne peux pas recevoir mon frère sans pardonner. Voyez. Regardez ce que fait cet homme quand il sort du palais, parce que probablement, c'est pas sur une coin d'une rue que le roi a demandé des comptes à son serviteur, tu sais. Il l'a fait comparaître probablement dans la salle du trône, là, puis il a demandé des comptes. Il lui remet sa dette, et le texte nous dit que dès qu'il fut sorti, je m'imagine là le gars qui sort du palais, là, tu sais. Je m'imagine, il a dû se dire, j'en ai échappé une belle, là, tu sais. Puis, je sais pas, moi, probablement que si on vous remettait une dette comme ça, vous allez sortir du palais, vous allez sauter les marches sans vous rappeler combien de marches il y avait, tu sais. Tellement vous seriez content, tu sais. Et pourtant, le gars, il sort du palais, qu'est-ce qu'il fait? Il voit celui qui lui doit 3 mois de salaire. Au lieu de dire, écoute mon frère, là, j'ai une bonne nouvelle extraordinaire, on vient de me remettre une dette gigantesque, mais vraiment gigantesque. Ta dette, là, oublie-la, tu sais. C'est pas du tout ça. Et en quelque sorte, c'est comme une impossibilité, cette deuxième scène-là. Je veux dire, en termes humains, là, comment ça se fait qu'il a posé ce geste inconcevable, de le prendre par le cou et de le faire jeter en prison. C'est inconcevable. Pourtant, il l'a fait. Et n'est-ce pas ce que nous faisons lorsque nous refusons de pardonner? Le geste aussi est irraisonnable. C'est vrai que quand quelqu'un te doit de l'argent puis tu pardonnes, ben, tu perds. Tu perds quelque chose. Tu sais? Mais il n'y a pas de pardon sans perte en quelqu'un, d'une certaine façon. Tu sais? Lorsque Christ nous pardonne, il perd sa vie. Pour que nous puissions être pardonnés. Est-ce que tu es prêt à perdre en exerçant le pardon? Tu sais? Le verset 21, nous pouvons le mettre en parallèle avec les petits-enfants qui sont choqués. Hein? On peut choquer des petits-enfants. On peut être une occasion de chute pour eux. Vous savez, quand nous refusons de pardonner, il y a des conséquences sur ceux qui vivent autour de nous. Imaginez-vous la scène suivante. C'est une rencontre de famille. Presque tout le monde est présent. Il y a une très belle atmosphère. Tout le monde est content. Et à un moment donné, il y a un membre de la famille qui vient en retard et qui rentre. Et là, quand ce membre de la famille vient en retard et rentre, quelqu'un qui faisait partie de cette autre famille, qui se déroulait dans la bonne atmosphère, quitte par une porte dérobée. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre la personne qui a quitté et celle qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est votre famille, ben ça va vous affecter, n'est-ce pas? Si c'est vos enfants, ça va vous affecter, n'est-ce pas? Le refus de pardonner a des conséquences relationnelles autour de nous. Ça a des conséquences dans le royaume de Dieu. Ça a des conséquences dans l'Église. Ça a des conséquences dans la famille. Alors je passerai rapidement sur ce que j'ai marqué, mais ces compagnons ont été peinés, ils ont été attristés, ils savaient que ce serviteur avait été pardonné d'une dette immense, puis de voir son comportement avec son collègue qui lui devait 3 mois de salaire, ça les a profondément offensés. Quand nous refusons de pardonner, est-ce que nous sommes comme ces gens qui offusquent les petits-enfants? Quel est le genre de témoignage que nous avons quand nous refusons de pardonner? Le pardon, c'est un besoin incontournable pour exprimer notre appartenance au royaume de Dieu. Pour exprimer notre appartenance au royaume de Dieu. Vous savez, ce serait facile si je pouvais exprimer mon appartenance au royaume de Dieu en sortant de ma poche là, mon permis de conduire. Ou ma... comment on appelle ça, le numéro d'assurance sociale, ou ta carte de citoyenneté, ce serait facile. T'sais. Tu sors quelque chose qui est extérieur à toi, là, tu sais. Mais le pardon est un besoin incontournable et manifeste le pardon, notre appartenance au royaume de Dieu. Le pardon, c'est une question de cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça qui va manifester que tu es vraiment un enfant de Dieu. Regardez au verset 32 et 34, là. Le roi est en colère, hein. Il est en colère. Parce que ce serviteur du roi, il a été l'objet de la grâce. Et parce que ce serviteur n'a pas compris quelle était maintenant sa responsabilité parce qu'il a été l'objet de la grâce. Tu sais? Donc celui qui ne pardonne pas ne comprend pas la grâce qui lui a été faite. Et ne comprend pas quelle est sa responsabilité en tant que sujet du roi. T'sais? En fait, probablement que celui qui devait 3 mois de salaire, il était aussi un sujet du roi. T'sais? Mais peut-être pas, il n'était peut-être pas gouverneur, parce qu'un roi règne sur tout le territoire. T'sais? Donc il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'intention du roi au travers de ce pardon-là. tous les serviteurs du roi devraient manifester le pardon. Ce n'est pas étonnant que le roi s'est mis en colère. Oups. Il y a des apparitions dans le PowerPoint que je n'avais pas inclus. Oups, c'est à cause de la souris qui se promène. Donc, le roi se manifeste sa colère. C'était la réaction instantanée du roi. C'est de l'indignation. T'sais. Non, attention là. Ne sois pas un objet de scandale pour les plus petits. Parce que si tu es un objet de scandale pour les plus petits, tu vas attiser la colère de Dieu. Et en ne pardonnant pas, tu peux attiser la colère de Dieu parce que ton manque de pardon blesse des gens autour de toi. Alors nous pourrions nous poser des questions là, face à ce texte. Est-ce que si on ne pardonne pas, ben on peut perdre la grâce de Dieu, tu sais. Le roi le fait remettre en prison, tu sais. Moi, je pense pas que Dieu retire son pardon. C'est pas l'objectif de la parabole. Vous savez qu'une parabole met l'accent sur un élément essentiel. Et quel est l'accent de cette parabole? C'est que le pardon est un besoin incontournable. C'est ça l'accent. Alors, le but de la parabole n'est pas de parler de la perte du salut ou que Dieu peut retirer son pardon. Mais la parabole, par l'action du roi, veut nous montrer que nous pouvons très bien expérimenter la grâce de Dieu sans être changés. Et ça, c'est dramatique. Dieu est un Dieu de grâce. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Hein? Il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Vrai? D'accord? Mais qu'est-ce que font les méchants face à la grâce de Dieu? Leur cœur n'est pas changé. Donc se pourrait-il que si je ne pardonne pas, se pourrait-il que mon cœur n'ait pas été changé comme on pourrait s'y attendre? Ok, je ne veux pas juger. Peut-être qu'on a de la difficulté à pardonner parce qu'on a des questions, comme j'ai dit au début de la prédication, des questions par rapport au pardon, à la réconciliation, par rapport au pardon et à la repentance. Et toutes ces questions, ça peut, comment dirais-je, m'empêcher d'exercer pleinement le pardon. Si on a des questions, c'est légitime. Mais à un moment donné, nous devons passer par-dessus ces questions-là et exercer le pardon. Et la parabole nous le dit. Le pardon, c'est un besoin incontournable. N'utilise pas les questions que tu peux avoir comme prétexte à ne pas pardonner. Au contraire, si tu as des questions, bien, élucide-les. Étudie le sujet. Regarde ce que la parole de Dieu dit dans ces domaines. Donc, je vous rappelle quand même que dans le contexte de cette parabole, Jésus s'adresse à Pierre et à ses disciples. Jésus ne parle pas nécessairement à une foule d'inconvertis, là. Si vous regardez au début du chapitre, les disciples viennent nous voir en disant « C'est qui le plus grand dans le royaume des cieux ?» Donc Jésus répond à ses disciples. Et ce texte s'adresse évidemment à nous. Alors quel est le sens de la parabole? Eh bien, on pourrait faire un lien avec ce que Jésus dit dans Matthieu en parlant de la prière, hein. Tu pries Dieu, mais si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui va arriver? Vous vous rappelez dans la prière Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous voulons que Dieu réponde à notre prière, à quoi Dieu s'attend-il? Que nous reconnaissions que le pardon est un besoin incontournable et que Dieu nous appelle aussi à pardonner. Cette parabole nous rappelle aussi la correction sévère dont nous pourrions être l'objet si nous n'acceptons pas de pardonner. Est-ce qu'un croyant peut être méchant? Est-ce qu'un croyant peut être méchant? Ici, je pense que dans le texte, il est question de... Jésus qui parle de méchant, ou il parle de... il faudrait que je retrouve le verset. Ah oui, en rapport avec ceux qui, qui font tomber ces petits ou qui sont une occasion de chute pour ces petits. Mais il faudrait que je relise le texte, j'ai perdu le verset. Peut-être que quelqu'un va le lire pour moi, va le trouver à ma place. Là, je vous fais travailler à ma place. Là, quand on trouve que, quand on cherche quelque chose comme ça, on veut le chercher vite. Et puis, en lisant vite, on passe par-dessus la réponse. Ah, attendez. Ah oui, voilà, c'est la fin du chapitre, verset 32. Lorsque le roi fait convoquer le serviteur, il lui dit « serviteur mauvais » ou « serviteur méchant ». Mauvais, méchant. Ce sont les termes qui décrivent tous ceux qui ne veulent pas accepter de donner le pardon. Regardez aussi un élément dans cette parabole qui peut être important, c'est celui de la dette. Le remboursement de la dette au verset 34. L'intention de ces serviteurs, des deux serviteurs, c'est de rembourser la dette. Remarquez que celui qui doit la plus petite dette a beaucoup plus de chances de rembourser sa dette que le gouverneur ou le serviteur du roi. Rembourser 10 000 talents, rembourser des milliards de dollars, c'est tout à fait impossible. La seule solution qui s'offre, c'est que la dette soit remise. Ça c'est l'évangile. Hein. Ça, c'est le message de l'évangile. Avons-nous compris que le pardon, c'est un besoin incontournable pour exprimer notre appartenance au royaume de Dieu? Alors, en conclusion, je voudrais terminer avec deux ou trois petits points. Dans le royaume de Dieu, nous vivons du pardon de Dieu. Et pas juste du pardon initial qui nous fait rentrer dans la famille de Dieu, hein. Mais nous vivons aussi constamment du pardon de Dieu. Ce que j'aime dans votre église, c'est que vous avez dans votre liturgie un moment accordé à la confession. Et ça veut dire que si vous avez un moment accordé à la confession, ça veut dire que vous avez compris que les croyants vivent continuellement du pardon de Dieu, n'est-ce pas? Dans le royaume de Dieu, nous exerçons le pardon envers nos frères et nos sœurs. Et dans le royaume de Dieu, Jésus le dit à la fin de la parabole, nous exerçons le pardon de tout notre cœur. Donc ce qui est en train de dire Jésus, c'est que ultimement, même si j'ai des questions sur le pardon, je les ai mentionnées au début de la prédication, les possibles questions que nous pourrions avoir, mais ultimement, le pardon c'est une question de cœur. Je vais citer des paroles de Maillot qui se trouvent dans les paraboles d'aujourd'hui, le livre de Marjabella, puis on va terminer avec cette citation-là. La voici à l'écran. Car c'est à cela seulement, et non pas à mes larmes d'hommes ou de femmes sensibles, à mes élans sentimentaux pour les déshérités. Il y a bien des gens qui travaillent dans l'humanitaire, tu sais. Ou à mes spasmes cardiaques devant les pauvres. C'est à mon pardon plein, total, que je puis à mon tour savoir si vraiment j'ai accepté totalement pour moi le pardon de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, combien nous avons besoin de nous arrêter. Et c'est ce que nous faisons cet après-midi. Pour réfléchir à la gravité de l'offense qui est la mienne devant toi. Seigneur, pardon parce que trop souvent je minimise la gravité de mon péché. Je me sens bien, je me sens peut-être sûr de moi. Peut-être je vis des bonnes journées. Puis quand ça va bien, pardon Seigneur. Parce que je ne comprends pas l'étendue de ma faute. Et l'étendue de mes fautes. Et je ne comprends pas combien mes fautes peuvent t'offusquer, peuvent provoquer ta colère. Mes fautes constitueraient une bonne raison pour que tu me rejettes, Seigneur. Toi qui es trois fois saint. Toi qui ne tolères même pas une ombre de péché, de mal. C'est une horreur pour toi le péché, Seigneur. Même mes péchés que je considère comme tout petit péché, Seigneur, pour toi, c'est une horreur. Et si ce n'était pas le cas, Seigneur, tu te renierais toi-même. Seigneur, tu, malgré tout ça, tu as pardonné nos fautes. Tu as envoyé Jésus-Christ mourir à notre place. Et Seigneur, pardon, parce que, encore une fois, ne comprenons pas la gravité de nos fautes, nous ne comprenons pas la grandeur du sacrifice de Jésus. Et Seigneur, c'est le temps pour nous, cet après-midi, de nous arrêter pour comprendre la grandeur du sacrifice de Jésus sur la croix. Seigneur, nous reconnaissons, je reconnais que j'ai besoin que tu changes mon cœur constamment. Que tu le pétrisses. Que tu le ramollisses. Que tu en fasses un cœur sensible à ta parole. Que de ce cœur puisse jaillir un pardon complet, entier, envers mes frères et mes sœurs. En fait, Seigneur, tu nous demandes constamment de vivre le pardon, parce que constamment nous pouvons nous blesser les uns les autres par des tas de petites choses. Mais ce pardon ne s'applique pas seulement dans les tas de petites choses. Ça s'applique aussi dans les grandes offenses dont nous sommes l'objet. Seigneur, tu nous dis dans ta parole de tout remettre entre tes mains. Seigneur, peut-être que cet après-midi, tu veux que nous remettions entre tes mains une situation pour laquelle nous avons des difficultés à pardonner. Que Seigneur, nous remettions entre tes mains la vengeance. Seigneur, que tu changes notre cœur pour d'abord que nous puissions expérimenter ce pardon face à toi. Et Seigneur, je sais que j'ai pardonné. Quand je peux prier pour ceux qui m'ont fait du mal. Je sais que j'ai pardonné quand je peux faire du bien à ceux qui m'ont fait du mal. Et même si le pardon horizontal n'a pas encore eu lieu, cet après-midi, Seigneur, nous voudrions commencer par le commencement. Face à toi, Seigneur. Face à toi, est-ce que j'ai pardonné ? Est-ce que je peux faire du bien à celui qui m'a fait du mal. Et Seigneur, par la suite, nous te prions pour que toi, tu puisses nous diriger en ce qui a trait au pardon horizontal. Mais Seigneur, tout commence par cette position de pardon que nous prenons face à toi concernant des offenses dont nous avons été l'objet. Et peut-être que cet après-midi, Seigneur, tu veux que nous puissions dans notre cœur, de prier en disant, Seigneur, je te remets toute cette situation. Je ne veux pas me venger. Je veux que ton amour règne dans mon cœur pour cette personne. Et Seigneur, la suite, je la remets entre tes mains. Seigneur, merci parce que nous pouvons montrer que nous appartenons au royaume de Dieu dans la mesure où nous vivons ce pardon face à toi. D'abord face à toi. Et ensuite, selon les circonstances, selon comment tu diriges, face à nos offenseurs. Merci Seigneur pour l'immensité de ton pardon. Amen.